Mireille Massy. Aujourd'hui, notre invité, Jacques Chabot.
Bienvenue à Facteur humain, le balado. Pensée et réalisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir. Bonne écoute!
Thank you. des déchets de taille, des blocs, des gros blocs qui ont servi à extraire les éclats puis les lames. Donc, on trouve qu'il faut être capable de comprendre ce matériel-là, qu'est-ce que c'est.
À quoi ça servait?
Oui, à quoi ça servait, puis d'où ça provient aussi, parce qu'il y en a qui ne servent à rien, c'est seulement des déchets qui viennent des ateliers de taille, mais il y en a qui ont servi. Donc, c'est ceux qui ont servi à fabriquer ou qui font des déchets de fabrication, du débitage, comme on appelle, ben, ils nous intéressent pour la question du savoir-faire, pour la technologie. Mmh. Et les outils qui ont servi, eux, ils nous intéressent pour diagnostiquer la fonction de ces objets-là.
Il y a toujours un lien entre la fonction et la forme de l'outil?
Non, justement, ça c'est quelque chose, ça fait partie des choses qui se sont développées beaucoup depuis quelques années. Autrefois, on pensait que on comparait un peu le matériel à notre technologie actuelle. Si je vois un stylo, un tournevis, par la forme de l'objet, je me doute à quoi il va servir. Mais quand on remonte dans les périodes anciennes comme ça, on a des lames qui sont comme des grands rectangles de pierre, puis on a des éclats qui ont une forme vaguement arrondie. Et c'est des objets qui se ressemblent tous. Donc, la morphologie de l'objet ne nous indique pas à quoi l'objet a servi, l'outil a servi. Mais c'est en regardant au microscope les traces d'utilisation qu'on va arriver à comprendre sa fonction. Et des fois, on a des objets semblables qui ont des fonctions différentes, et on a des objets de morphologie différente qui ont des fonctions semblables. Donc, il ne faut jamais prendre rien pour acquis. C'est vraiment en regardant au microscope les traces d'utilisation, et ça, c'est un long travail, c'est long à apprendre, c'est long à enseigner, c'est long à maîtriser parce qu'on a toujours l'impression qu'on apprend vu que chaque matière première est différente.
Est-ce que c'est justement quelque chose que vous expliquez, que vous devez expliquer très rapidement à vos étudiants? C'est pas évident, penser que la forme et la fonction sont bien distinctes.
Oui, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait croire. Puis même les archéologues qui sont là depuis plus longtemps, je dirais, qui ont des méthodes plus traditionnelles, encore aujourd'hui, on va entendre ça des fois. Alors, en regardant l'objet, ils vont dire à quoi il a servi. Mm. Et si on prend le même objet et on le regarde au microscope, ça se peut que ça soit vrai. Mm-hmm. Mais c'est vraiment la preuve, c'est vraiment en observant les micro-traces qu'il y a dessus.
On ne peut pas prendre ça comme un automatisme.
Non. Puis j'ai des exemples comme ça dans mes travaux, et même les travaux que j'ai faits quand j'étais au doctorat, puis par la suite, des objets qu'on pensait savoir c'était quoi depuis 70 ans. La sociologie n'existait pas dans les années 1930, par exemple, ou même 1950. Alors, on avait posé un diagnostic fonctionnel juste en regardant la forme, puis parce qu'il y avait un lustre d'utilisation. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça. C'est pas loin, c'est pas nécessairement loin comme fonction, mais on cherche à être le plus précis possible. Parce qu'on cherche à comprendre la vie quotidienne des gens. Puis le coffre à outils, ben, en pierre, on nous raconte beaucoup de choses.
Ça, vous apprenez à deviner comment vivaient ces peuples-là avant, dans le fond, ici.
Oui. Comment ils s'approvisionnaient en matière première, quelles techniques ils possédaient, comment ils ont développé. Parce que les techniques se développent aussi dans le temps, aussi, selon ce qu'on a besoin. La finalité fonctionnelle aussi va faire en sorte qu'on va adapter les techniques de taille pour fabriquer des objets plus performants, plus adaptés à ce qu'on veut faire. Justement, quand il y a ce grand tournant dans l'histoire de l'humanité où on va inventer l'agriculture, ça va faire que les objets en pierre vont vraiment être rattachés à ces nouvelles tâches-là très rapidement. Et sur des sites agricoles, on trouve une grande grande quantité de pierres qui ont servi dans le cadre de l'agriculture. Donc, et un influence l'autre. Plus ils ont besoin d'outils agricoles, plus ils vont adapter leurs techniques parce qu'ils ont besoin d'objets réguliers, standardisés. Donc, ils développent des techniques en conséquence.
Le nom de la période est lié à l'utilisation?
Ça, c'est un peu compliqué parce que l'archéologie, c'est une science qui est jeune, une centaine d'années, un peu plus. Puis, on a donné des noms de période il y a longtemps. Le nom des périodes, on les garde, mais ce qu'ils voulaient dire avant et ce qu'ils veulent dire maintenant, c'est plus tout à fait pareil. Le néolithique, c'est un bon exemple de ça, parce que néolithique, ça veut dire la nouvelle pierre. Donc, avec le travail des plantes, il y a des objets qui vont se développer au néolithique qui n'apparaîtront pas à cette période-là, les objets en pierre polie. C'est-à-dire qu'avant, on nomadisait, on chassait, on cueillait, puis on se fondait plus dans la nature. Tandis qu'à partir du néolithique, les gens vont vraiment prendre possession d'un territoire, vont le transformer. En Europe, il y a une grande, grande déforestation pour faire des terres agricoles, construire des grandes maisons, même chose au Proche-Orient, bien sûr, avant ça. Mais en fait, le néolithique maintenant, le non-néolithique, c'est vrai qu'il y a de la pierre polie qui va se développer à cette époque-là, mais ce qu'on entend maintenant par le nom de cette période-là, la définition a complètement changé. C'est une définition beaucoup plus culturelle maintenant que juste avec le matériel.
Fascinant. Puis, en parallèle de ces analyses de pointe-là que vous faites sur la culture matérielle, vous développez également des référentiels expérimentaux sur la préhistoire nord-américaine, cette fois-ci. C'est quoi des référentiels expérimentaux?
En fait, comme c'est absolument nécessaire d'avoir ces référentiels-là. Parce que quand on, en sociologie, quand on veut connaître la fonction d'un objet, on va regarder sa partie active au microscope, avec un microscope métallographique, les grossissements de 100 à 400, 500 fois, dépendamment de la matière première. Si je travaille sur de l'obsidienne qui est un verre volcanique, comme c'est le cas en Arménie, il y en a plein, je peux travailler plus à 200 fois. Si je travaille sur du silex ou du choc, comme on a au Québec, on travaille plus à 100 fois en général. Mais il y a deux choses dans l'analyse spatiologique. C'est de prendre l'outil, puis de le mettre sur le microscope, puis de trouver ses traces d'utilisation. Mais la deuxième chose, c'est d'être capable de les lire, les traces. Donc, si je mets l'objet sur le microscope et je trouve ses traces, je peux dire qu'il a servi. Mais si je ne sais pas, si je sais seulement reconnaître les traces, mais je ne sais pas les lire, je ne saurais pas à quoi il sert. Et moi, je vais approcher le plus possible de l'être humain. Parce qu'on fait toutes ces analyses-là avec l'équipement sophistiqué. Mais le but, c'est toujours, toujours de comprendre l'être humain, comment il vivait. Donc, pour pouvoir lire les traces, j'ai besoin d'un référentiel. C'est-à-dire qu'expérimentalement, avec une matière première d'une culture donnée, ça pourrait être l'exemple de l'obsidienne arménienne que je viens de donner, ça peut être un choc en Amérique du Nord, une sorte de silex, on va fabriquer des objets expérimentalement semblables à ceux qu'on a utilisés. Et on va les soumettre à des tests. C'est-à-dire, supposons que je veux comprendre comment se développe le travail de l'os. Je vais avoir un objet semblable à celui que j'ai étudié sur la même matière première avec une forme semblable. Je vais travailler de l'os. Bon, on va prendre des photos microscope d'abord à 0 minute. 0 minute, ça veut dire que l'objet est brut, il faut travailler. Il faut savoir à quoi ça ressemble. Si on veut voir comment les traces s'impriment, il faut savoir à quoi ça ressemblait avec un béton. Donc, on prend des photos à 0 minute. Après ça, on va travailler l'os pendant 5 minutes. On va arrêter. On va prendre des photos. Quand je dis prendre des photos, c'est beaucoup. On a un référentiel de 40 000 photos dans mon laboratoire. C'est pas fini, on continue toujours. Donc, on prend des photos à 5 minutes. Donc, pour travailler de l'os avec cette matière première-là pendant 5 minutes, ça donne ça. Après, on reprend notre objet. On va se rendre à 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure et demie. À chaque intervalle, on arrête, on prend des photos. Ça va être très, très long. Ce qui fait qu'après ça, j'ai documenté comment va réagir cette matière première-là quand on va travailler de l'os. Mais il faut faire aussi le bois, travailler des plantes, les peaux, etc. Mais après, quand je vais au microscope, j'ai un référentiel pour cette matière première-là, avec toutes les fonctions imaginables. Puis là, je vais avoir des traces archéologiques sur l'artefact. Puis, à ce moment-là, là, je vais être capable, par comparaison, de savoir à quoi l'objet a servi. Parce que j'ai un référentiel pour le prouver. C'est les expérimentations qui me permettent de prouver que j'ai reproduit les mêmes traces que je vois archéologiquement, qui est reproduite par un référentiel. Et moi, je compare ça souvent, je dis que les référentiels, c'est comme notre dictionnaire ou une encyclopédie, parce que je compare ça à une langue. Si je ne sais pas lire les traces, mais que je suis capable de les trouver, c'est un peu comme quelqu'un qui est capable, qui ne parle pas allemand, mais qui entend de l'allemand, qui dit « Ah, ça c'est de l'allemand. » Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais c'est de l'allemand. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Ben, si je suis juste capable, c'est déjà intéressant de mettre l'objet sur le microscope et de trouver les traces, ce qui n'est déjà pas facile, mais je ne suis pas capable de les lire, ben, je suis comme quelqu'un qui entend l'allemand ou le russe, ou peu importe, mais qui n'est pas capable d'identifier ce que les gens disent. Donc, le référentiel, ça que je compare à un dictionnaire, me permet de documenter les traces. Donc, c'est très, très long parce que chaque matière première, que les anciens qu'on étudie, les gens prenaient les matières premières qu'il y avait dans leur environnement, ou encore, ils s'approvisionnaient via des réseaux d'échange. Ce qui fait qu'on n'a pas juste une matière première sur un site, dans l'ensemble des sites, on n'a pas juste une matière première, et chaque matière première réagit différemment. D'où la comparaison avec des langues. Si je n'ai jamais travaillé sur telle ou telle matière première, je n'ai aucun référentiel, là je vais être dans la situation de quelqu'un qui ne comprend pas l'allemand. Je vais être capable de trouver des traces, mais comme c'est une matière première que je ne connais pas, je ne pourrais pas aller plus loin. C'est pour ça qu'on développe dans mon laboratoire plein de référentiels sur plein de matières premières différentes.
Ils sont spécifiques, je crois, à l'Amérique du Nord, c'est ça?
Ben, en fait, oui.
Dans votre cas,
oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est que la traceologie, c'est une expertise qui est très européenne. Moi, j'ai appris ça en France. Les Français sont très, très forts en traceologie, les Russes, les Espagnols notamment. Ce qu'on voulait faire, c'est. Parce que comme il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait ici, là-dessus, en Amérique, moi, je trouvais ça dommage parce que j'ai des étudiants qui travaillent avec moi. Moi, mes travaux sont plus sur l'enseignement, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent sur la pierre taillée en Amérique du Nord. Mais il fallait toujours, si quelqu'un voulait faire une maîtrise ou un doctorat, il fallait toujours lui dire ben là, tu vas partir de zéro. Parce qu'on n'a pas de matériel, il n'y a pas de référentiel en Amérique du Nord.
Sur son propre référentiel.
Ben, il faut toujours qu'il le fasse de toute façon, mais moi je voulais au moins qu'il y ait pour compléter, je voulais qu'il y ait une base de départ. Ça fait qu'il y a quelques années, on a sélectionné les 10 matières premières favorites des Premières Nations entre l'histoire, de l'État de New York jusqu'à la Gaspésie. On a choisi 10 matières premières, on a fabriqué des objets expérimentaux et on a fait les références. C'est très long à faire. Puis on continue depuis ce temps-là à élargir le référentiel. Comme là, j'ai une étudiante qui est en train de finir sa maîtrise sur une matière première qui s'appelle la rhyolite, qui, dans son cas, vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, elle étudie les artefacts de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été trouvés dans des fouilles récentes. Ont été effectués, puis donc on a commencé par regarder le short, puis après ça, le short c'est un peu comme du silex. En fait, le silex c'est un short de bonne qualité, short c'est C-H-E-R-T. On a commencé par regarder le short, vu que c'est une semaine, c'est pas très la même chose, puis on a complété avec des expérimentations sur la rhyolite. Donc on rajoute toujours des nouvelles matières premières.
Est-ce que ça veut dire que ce référentiel est propre? C'est la première fois que ça existe ici,
oui.
En Amérique du Nord?
Ah oui, il n'y en a pas d'autres.
C'est que vous avez vraiment fait œuvre de pionnier, là.
On continue à... Moi, je trouvais que c'était important, parce que j'ai travaillé beaucoup dans mes recherches, sur plein de cultures néolithiques, calcolithiques, âge du bronze à l'étranger. Mais je trouvais que c'était dommage qu'ici, on n'avait pas, sur les recherches sur les cultures d'ici, on n'avait pas grand-chose. Vraiment... développer ce projet méthodologique-là. Ce qui est très intéressant, en plus, c'est que la pierre taillée, c'est un matériel qui est universel. Si on va en Chine, si on va en Pologne, si on va en Amérique du Sud, en Afrique, quand les gens, dans les époques où les gens ne connaissaient pas la méthodologie, ils taillaient de la pierre. Avec du silex, on peut en trouver partout. On peut trouver du très bon silex en France, comme au Proche-Orient. Donc, ces référentiels-là, oui, sont basés sur des matières premières d'ici. Et quelqu'un pourrait très bien faire une recherche sur un autre cube. Ça arrive aussi dans mes étudiants ou dans mes recherches. Faire des recherches sur une culture ailleurs, qui vient d'ailleurs, mais pouvoir utiliser en même temps ce référentiel-là. Parce qu'un choc ou un silex, qu'il soit de Chine ou qu'il soit de France, ça reste un silex. Donc le référentiel, on l'a adapté, on l'a vraiment fait en fonction de ce qui était important pour les cultures qui sont présentes ici, mais on peut l'utiliser ou l'adapter. Et c'est jamais comme une recette. C'est pas dans le sens qu'on fait jamais, peu importe où on travaille, jamais quelque chose qu'on va appliquer à l'aveugle. On faut toujours regarder la culture particulière dans laquelle on travaille. Il faut toujours adapter. C'est pour ça que toujours dans les recherches de doctorat ou de maîtrise que les étudiants mènent, il y a toujours une portion où il y a un petit ajout qu'il faut faire au référentiel par rapport à la culture étudiée. Mais ça fait qu'on a une bonne base de départ, puis on continue à l'enrichir. Donc, on a les objets archéologiques, expérimentaux, je veux dire, en référentiel. On peut regarder l'objet, on peut le remettre sous le microscope. Mais on a toutes sortes de fiches descriptives très, très, très détaillées. Et on a des photos.
J'ai une question. C'est que si vous dites que le silex, par exemple, on en trouve partout dans le monde,
oui.
Pourquoi on n'utilise pas le référentiel d'ailleurs et qu'on doit en faire un ici?
C'est quelque chose qu'on a testé, ça, justement. Moi, j'avais eu l'occasion de travailler dans plusieurs cultures. Et pour les tours ici, par exemple, ici, c'est plutôt du chat. Ça ressemble beaucoup au silex, la même sorte de roche. J'avais des gros doutes que chaque chat était semblable. C'est-à-dire que chacun a ses petites particularités qui font qu'on ne peut pas dire « j'ai fait des analyses spatiologiques sur le chat Onondaga, par exemple. Maintenant, je peux parler de tous les chats. » On avait hâte de voir la réponse. On aurait aimé ça que ce soit encore plus universel. Mais bon, sans grande surprise, la réponse, c'est que même si c'est une grande famille, des chats, on peut comparer ça à des dialectes. On continue avec notre exemple avec les langues. Ben, un Français qui parle, puis un Québécois, ben, c'est pas tout à fait pareil. Ben, un chat qui vient de tel endroit, puis qui vient de tel autre endroit, ça se ressemble. Donc, on est bien parti pour l'analyse générale. Mais quand on veut entrer dans les détails, ben, il faut adapter. C'est pour ça que dans mon référentiel qu'on a conçu, on a plusieurs types de chats, parce qu'ils ne répondent pas tous de la même façon. C'est pas loin. Les autres roches, c'est complètement différent. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer, peu importe, il faut toujours, toujours être prudent. On ne peut pas appliquer ça aveuglément. Il faut toujours regarder bon, la matière première. Puis quand on fait les analyses, il y a une multitude d'indices qu'on enregistre. Dans notre cerveau aussi, ça fonctionne. On fonctionne un peu comme les médecins, c'est-à-dire qu'on veut poser un diagnostic.
Oui, bien justement, je vous écoutais, puis ça me faisait penser à la science médico-légale, pour investiguer des scènes de crime un petit peu. Des traces, ouais. Savoir à quoi ça a servi, se baser sur les faits pour interpréter, mais ouais. On ne saura jamais parce qu'on n'était pas là.
Non. En fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressemblances. Parce que l'archéologue, c'est un détective, mais du passé. Mm. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à reconstituer un crime, mais on cherche à comprendre la vie quotidienne. Puis comme je le disais au début, on a seulement des indices physiques qu'on trouve en contexte. On sait très bien les dater, ça s'est passé là, à tel moment. Ça s'est passé avant ça, parce que la déposition des couches archéologiques, si ce n'est pas trop perturbé, on sait que ce qui est plus haut et plus récent, ce qui est plus creux et plus ancien. Mais oui, on fonctionne de cette façon-là. C'est pour ça aussi qu'on a déjà eu, dans mes cours, j'ai déjà eu des étudiants en criminologie, en médecine.
Ah oui.
Ah. C'est intéressant parce que vous raisonnez un peu comme nous. Parce que c'est ça, on part d'indices. C'est une méthode qui est inductive. C'est-à-dire qu'on part d'indices. On regarde le petit avant de reconstituer, d'aller dans le plus grand. Donc, on part de vraiment des détails. Il y a plein de détails à voir. Puis quand on fait nos analyses comme ça, très fines, là, comme là, je vois des stries parallèles au bord. Hein, le lustre est mort. Il n'est pas trop brillant. Hein, il y a des égratignures. Toutes sortes de petites choses que je vais enregistrer, photographier. Quelqu'un qui verrait ça, il dirait, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Mm.
Ben, c'est de l'archéologie, mais j'avance très, très, très proche dans l'objet, mais éventuellement, ce que ça va me permettre de faire, ça va pouvoir dire, ben, cette personne-là, il y a 8000 ans, utilisait cet objet-là, cet artefact-là, comme fossile pour couper les plantes, c'est un des premiers agriculteurs du monde. Mais à la fin, je vais être capable de savoir ce qu'on fait avec. Mais pour y arriver, il faut aller dans les détails. C'est cette partie-là qui est vraiment longue à apprendre. On a l'impression d'être un étudiant éternel parce qu'on apprend tout le temps, parce qu'il y a toujours des qu'on peut prendre pour acquis. Faut dire, ça, c'est l'erreur qu'on pourrait faire, de dire « maintenant, je suis bon, j'en fais depuis longtemps. » Puis ça, ça serait propice à faire des erreurs, parce que chaque culture est différente. On voit que beaucoup de choses sont identiques d'une culture à l'autre. Pas identiques, mais semblables, jamais tout à fait identiques. Puis les gens, les innovations, ça bouge beaucoup. Il y a des transferts d'idées d'un endroit à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, la route des techniques, la route des innovations. Moi, je travaille, donc je travaille beaucoup dans ces endroits-là, Proche-Orient, Caucase. On se rend compte qu'il y a des techniques qui sont inventées, en 6000 avant Jésus-Christ, puis qu'on va retrouver encore presque 3000 ans plus tard. Mais on peut suivre la route, ces techniques-là vont survivre. Parce que une technique agricole, une puissance de mécanisation, encore aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent avec des façons de faire qui peuvent se rapprocher de ce que les gens faisaient autrefois. Mais moi, c'est ça, je dis toujours aux étudiants. Quand je montre ces analyses-là ou dans les cours, je dis toujours, n'oubliez pas qu'on travaille sur des êtres humains. Au bout du compte, on va y arriver. On va finir par tout ça, on va les analyser, puis on va arriver à des conclusions sur la vie quotidienne.
Est-ce qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à savoir si la façon de justement d'utiliser ces outils-là pour, par exemple, on parle d'une faux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de voir si justement en Asie, si c'est à peu près la même façon de fonctionner?
Oui, quand c'est possible, on fait des techniques ethnographiques. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on leur montre qu'est-ce qu'on a trouvé comme objet, qu'est-ce qu'on a trouvé comme conclusion par rapport à l'utilisation de ces objets-là. Et oui, quand c'est possible, on met... il y a des choses qui sont maintenant complètement différentes, mais il y a des choses qui ont survécu, c'est fou, des choses qui ont été inventées il y a à peu près 7000 ans, par exemple. Si on pense à l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse, donc le tribulum, puis la fossile, c'est des objets qui ont été inventés par des fermiers au néolithique très, très, très longtemps. Puis, j'ai un objet, par exemple, à mon laboratoire, qui est un tribulum. Donc, tribulum, c'est les Romains qui appelaient ça comme ça, ça vient de tribulation, parce que c'est un traîneau à dépiquer. Ça, c'est celui que j'ai qui à mon laboratoire vient de Provence, qui date du 19e siècle. Ça veut dire que moi, je trouve, par exemple, au Caucase, des éléments de tribulum, l'ancêtre de la batteuse. Je trouve des objets qui ont... utilisé il y a 8000 ans, qui ont servi sur des tribulums, puis il y a des tribulums encore dans le monde méditerranéen jusqu'à récemment. Ça veut dire que cet objet-là, cet outil composé, c'était comme un traîneau dans lequel on collait des lames dedans, on le traînait sur l'air à vapeur pour hacher la paille en fines particules, puis séparer le grain de son enveloppe. Ça veut dire que cette invention-là était tellement bonne. Servi jusqu'à temps qu'il arrive la mécanisation.
Wow.
C'est assez impressionnant.
C'est, fou, c'est incroyable. Oui. Mais pour être capable de faire ça, il faut quand même connaître un peu l'agriculture. Non? Comment est-ce que vous pouvez...
Oui, c'est une chose qu'on apprend, puis on consulte 15 gens, puis on avait quand on faisait les expérimentations, on avait justement des gens en anthropologie, des spécialistes de différents aspects. Puis oui, on n'a pas le choix. Ben, c'est la même chose pour tous les artistes. L'archéologie, c'est une science très pluridisciplinaire.
Mm-hmm.
Parce que justement, former un archéologue, c'est long, parce qu'il faut qu'il comprenne plein d'aspects. Parce qu'on va reconstituer, c'est complexe la vie des gens dans une société. Donc, il y a plein d'aspects à maîtriser.
Mm-hmm.
Donc, il y a cet aspect-là analytique, mais il faut justement, c'est tout le temps voir l'art. C'est pour ça qu'on encourage beaucoup nos étudiants à aller dans d'autres domaines dans le cadre de leurs études, parce qu'il faut qu'il y ait les horizons très larges parce que si un jour tu veux reconstituer la vie des gens, tu sois capable de comprendre plein de choses. Fait qu'on part de petit, mais on va arriver à... Mais oui, quand c'est possible, on fait...
regard multidisciplinaire sur un objet, ça doit être absolument passionnant.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est très impressionnant quelque part. C'est tout ce qu'on peut dire comme avec un petit bout de roche. Justement, des fois, quand on fait des visites de laboratoire, puis les gens viennent, puis au début, ben, ils voient ce qu'on a dans mon laboratoire, c'est des morceaux de roche. Mais après, quand ils sortent, ils disent toujours, je ne pensais jamais qu'on pouvait dire autant de choses à partir de morceaux de roche, parce qu'on va vraiment très, très loin, là, l'approvisionnement, matière première, plein de choses. Mais c'est ça le travail d'un détective. Le policier qui ramasse les indices, des fois c'est un morceau de cigarette avec lequel il y a de l'ADN dessus, c'est pas nécessairement le plus bel indice qui va donner les résultats. Puis en archéologie, je pense que ça, c'est une chose qui a vraiment évolué. C'est, OK, il y a des choses qui sont belles, spectaculaires, qui vont être dans des musées. On en a, moi, j'en ai plein aussi dans mes collections d'objets exposables, si on veut. Mais nous, l'archéologue, c'est pas vraiment ça nécessairement qui l'intéresse en premier. Moi, je dis toujours que les objets ne m'intéressent pas, c'est ce qu'ils vont me raconter qui m'intéresse. Mm-hmm. C'est savoir l'interroger, ce qui me parle.
Et l'interpréter.
C'est ça. Mm-hmm. C'est très, très, très long. Là, mais ça, c'est... Des fois, on peut passer 3-4 heures sur un objet, prendre 40 photos, parce qu'il faut les traiter à Photoshop, analyseur d'image, parce qu'il y a certains grossissements, il faut prendre plein de photos au même endroit, pour lancer ça dans un logiciel qui va nous faire la mise au point. Parce qu'il y a de la microtopographie. Quand on travaille à 400 ou 500 fois sur une place, c'est comme si on est dans un milieu avec du relief. C'est pas nécessairement plat. Il y a plein de détails comme ça.
C'est étonnant parce que vous parlez, on a les images dans les yeux, là. On voit l'épaisseur grossir et la topographie.
C'est sûr que l'idéal, c'est toujours de le montrer en personne. Oui. Ou
mais vous
les
êtes
les
bon parce que moi, j'arrive à me figurer.
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.